Notre Dieu, nous te remercions pour cette petite heure et demie où on va pouvoir se réunir et regarder ensemble ce que tu veux nous dire à travers encore cette doctrine biblique du travail, et notamment voir que le travail, c'est un mandat que tu nous as donné, Seigneur, pour l'homme. C'est quelque chose que tu lui donnes à faire et c'est pas juste pour subvenir à nos besoins, mais c'est pour bien plus que ça. Ça, je te prie pour toutes les personnes ici présentes, les personnes qui vont peut-être encore venir. Et ou qui vont écouter aussi ce message après coup. Et je te prie que tu puisses encore nous guider. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, avant de commencer, je vous propose de lire dans la Bible Genèse 1, versets 26 à 31. Je vous laisse le temps de chercher dans vos Bibles. Genèse 1, 26 à 31. C'est parti. Alors. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins au noyau, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ensuite, on va regarder Genèse 2, 18 à 20. Vous arrivez à voir ce que je diffuse ou pas? C'est bon?
Oui, ça marche. Yes.
Ok. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Bon, je continue pas, c'est le passage qu'on lit souvent pour les mariages et voilà. Mais là, l'idée, c'était vraiment de se focus sur la partie avant. Il nomme les animaux, notamment. OK. Avant de commencer à regarder l'article et à discuter dessus, ce que je vous propose, c'est de partager un peu sur comment s'est passé vos dernières semaines au travail. En rappelant peut-être quel est votre travail, mais rapidement, hein, parce que je pense qu'on se connaît un peu tous, mais juste rappeler, voilà, pour ceux qui n'avaient peut-être pas de travail ou qui ont une évolution un peu professionnelle qui a changé, voilà. Peut-être on peut commencer par les filles, puis après ça fait Juliette, Esther, Francis, Alain et Stéphane.
Bon, moi, comme vous savez, actuellement, je ne travaille pas. Je suis en plein reconversion professionnelle. Ceci dit, j'aide quand même mes parents au traiteur. Enfin, je ne suis pas là à me tourner les pouces. Donc voilà, quoi, j'essaye de les aider au max. Voilà.
Comment ça s'est passé au niveau justement du travail du coup?
Ah, comment ça s'est passé? Après, avec la famille, c'est différent. Hein. Tu sais, c'est. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Enfin, les relations, voilà quoi. C'est un peu plus intense que quand tu travailles avec des collègues qui ne sont pas de la famille, quoi, on va dire. Voilà, mais moi, je sais qu'avec mon ancien travail, ouais, ça peut aller. Enfin, je sais pas. C'est pas pareil, quoi. De travailler avec la famille et de ne pas travailler avec la famille.
D'accord. Alors moi, ce que j'avais un peu en tête de la dernière fois, c'est que tu visais un CAP boulangerie. Ça, c'est toujours d'actualité?
C'est toujours d'actualité. En fait, je suis en attente de la réponse de Pôle emploi et pour l'aide financière, en fait. Voilà.
Ok. Et tu devais trouver une entreprise avec une semaine de stage d'insertion. Ça, je ne sais pas si ça s'est déjà fait ou.
Oui. Ah oui, ça s'est fait. Oui, effectivement, oui.
Non,
J'ai eu 3 jours d'immersion professionnelle, effectivement, au mois d'août, dans une boulangerie. J'ai fait du 7-14, donc ça va, j'ai pas fait des horaires de genre 3h, 4h du matin.
ouais.
J'ai commencé à 7h, j'ai fini à 14h. C'était assez, alors c'est très très physique parce que faut savoir que je suis pas dans la vente, hein. Je suis vraiment dans les backstage et c'est assez physique et on apprend. J'ai appris beaucoup de choses en 3 jours et ouais, c'était assez intense. Enfin, c'est très physique, mais moi ça me dérange pas que ce soit physique. Je me dis ça fait mon sport. Genre le lendemain j'étais courbaturée en fait. J'étais courbaturée de partout, surtout au niveau des bras. Donc ouais. Voilà, on va dire que ça a fait mon sport quoi. Après j'avais peur, tu sais, au début quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, c'est qu'à chaque fois tu as peur d'être en mode un boulet, tu vois. Donc parce que comme c'était la première fois de ma vie que je travaille dans une boulangerie, bah ouais, j'avais cette crainte de ne pas plaire, genre mon travail voilà, allait être un frein pour le boulanger qui était sur place et tout, tu vois. Donc mais bon, ça va, il a été patient, donc ça c'est cool.
D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez, enfin, est-ce que t'as fait des tâches, t'étais pas juste en stage d'observation comme on faisait en troisième?
Non, j'ai carrément, ils m'ont vraiment mis. Ce qui est cool, c'est que voilà, j'étais pas là en mode 3 jours en train de les regarder, quoi. C'est que vraiment, j'ai fait des choses et ouais. Et du coup, bah, je faisais à mon rythme parce que voilà, j'étais pas aussi rapide qu'eux et du coup, voilà. Et après, je faisais aussi des erreurs et tout, bien évidemment et. Donc, ils me remontraient à chaque fois et tout. Mais je pense que voilà, il faut énormément de la pratique, quoi. Donc voilà.
Ok. Top.
Merci.
Merci, Juliette. À toi, Esther. On ne t'entend pas.
Oui, c'est bon. Moi, l'activité à la maison avec les enfants, c'était un nouveau rythme. Adopté depuis septembre avec la reprise de l'école, l'arrivée de la crèche et tout. Donc, c'était très, très speed. C'est toujours très speed. Je vous avouerai que j'étais un peu fatiguée parce que en termes horaires et tout, après 15h30, entre 15h30 et 16h, il faut courir. Et ça laisse peu de temps pour soi. Puis voilà, mais bon, après je me dis que c'est un rythme à adopter et puis avec un peu de temps ça va le faire.
Dès le début, tu as repris le travail au SEM, c'est ça?
Non, j'ai pas repris, je reprends en janvier.
Par contre, tu mets Noah à la crèche.
Oui.
Ok, donc ça te laisse un peu de temps pour toi du coup?
Oui, ça me laisse du temps, tout en sachant que le mercredi, ils vont pas à l'école, ils vont pas à la crèche. Donc, en fait, ça me laisse lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Ok. Waouh. Ok. Et du coup, ce temps libre, tu en profites pour faire quel genre de choses?
Le ménage. Ça me laisse du temps pour moi. Vu que j'ai commencé une formation avec Tatiana sur la relation d'aide, moi, ça m'a permis de me concentrer sur les devoirs, la lecture... d'un livre et tout, donc ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai principalement consacré mon temps là à faire ça.
Okay.
Ça me permet aussi de sortir et voir certaines personnes.
Ouais, top. Ok. Ah, vas-y, Francis, ok.
Moi, entre la dernière fois, depuis la rentrée, en fait, j'ai travaillé un jour par semaine sans obligation. Du coup, je continue un peu sur le rythme depuis la reprise du travail. Sinon, y a un plan social chez nous. Ils virent quelques personnes dans mon département. Du coup, on va avoir plus de taf pour ceux qui restent. Donc, l'ambiance n'est pas au top.
Notamment toi, tu n'es pas concerné du coup?
Non, je ne suis pas concerné, mais c'est en Allemagne, en fait, ils virent des gens. Et du coup, comme l'activité n'est pas réduite, en fait, il y a juste moins de personnes pour faire le même taf. Ils ont commencé à redispatcher le taf des personnes qui doivent partir. Et donc, ouais, c'est pas cool.
Ça marche. Et depuis que tu as repris le travail, parce que c'était en juillet la dernière fois qu'on s'était vu, est-ce que tes interactions avec tes collègues, c'est comme d'hab ou est-ce qu'il y a...
C'est comme d'hab, mais il n'y a plus trop de cohésion en fait. Parce que chacun travaille de chez soi, même quand on va au boulot, tu ne sais pas qui tu vas retrouver. Est-ce qu'il n'y a pas trop de... Il y en a, ils viennent tous les jours, il y en a, ils viennent aussi de temps en temps, donc on ne se croise pas. Et ouais, je pense que le travail d'équipe en pâtit de cette situation. En fait.
La règle, c'est tu as un jour de télétravail
autorisé. Non, la règle, c'est tu viens quand tu veux.
Ah, ok.
Donc moi, j'essaie de venir une fois par semaine.
Ah, tu vas une fois par semaine, j'ai compris l'inverse, que tu faisais un télétravail.
Il n'y a vraiment pas d'obligation, en fait.
Ok.
Ouais, mon chef, lui, il vient jamais, j'ai l'impression. Voilà quoi. Donc c'est que par téléphone et Skype, enfin, Teams. Okay.
Et la dernière fois, tu parlais de 50% de ton activité qui dépend d'une boss qui t'a tout refilé, mais ça, je pense, c'est parce qu'elle était partie en congé.
Oui, oui, elle était en congé. Ouais.
Ok, ok.
Là, elle est en vie.
Ça va. Alain, à toi.
Alors moi, je suis développeur. Donc en ce moment, je suis chez un grossiste dans l'alimentaire. J'ai commencé le 1er juillet. Et là, tout se passe bien. Et en ce moment, je suis en télétravail à 100%.
Comment se passent tes interactions avec tes collègues, du coup?
Bah, j'ai des réunions tous les matins, donc on discute pour voir l'avancement des travaux.
Ok. Est-ce que tu arrives à avoir des interactions un peu pour parler autre chose que du travail, ou est-ce que c'est vraiment que travail avec la visio, c'est moins facile, je pense, de parler d'autres choses, non?
Bah, c'est que travail. Okay.
T'as plus la machine à café, t'as plus la pause déjeuner, t'as plus ces moments. Ouais. Oh. Ok, ça marche. On t'entend pas. Stéphane, tu m'entends?
Ah oui, pardon. bah écoute, moi ça va. Au travail, ça se passe bien. Il y a de plus en plus de taf à faire.
Non, mais tu n'avais pas commencé encore, je crois, le travail. Hein.
Non, je n'avais pas commencé la dernière fois. Alors, pour rappel, du coup, j'ai pris un poste de. Alors, c'est un poste d'assistant sécurité à la SNCF. Et en fait, bah, on va s'occuper de la sécurité, de veiller à ce que les procédures soient respectées, de gérer tout ce qui est. Habilitation, ensuite faire des sensibilisations, faire des contrôles sur le travail, des choses comme ça, mettre en place des plans d'action pour améliorer les conditions de travail, tout ce qui est lié à l'amélioration des conditions de travail et l'amélioration de la santé et sécurité au travail. Du coup non, ça se passe bien. Ouais, comme je disais, bah, y a de plus en plus de travail, puisque en fait, je prends un peu plus mes marques à chaque fois, et je suis pas mal en formation aussi, et en fait, les formations permettent aussi de pouvoir être plus autonome sur le poste, puisque du coup, il y a des missions que je ne pouvais pas faire avant parce que j'avais pas les formations et j'avais pas les habilitations. Maintenant, je commence à en avoir de plus en plus, donc ça rajoute du boulot, mais c'est toujours très intéressant. Et du coup, avec les collègues, moi j'ai beaucoup d'interactions, surtout avec mon vis-à-vis, enfin oui, c'est à peu près mon vis-à-vis en fait, parce que nous en fait il y a personne qui fait du télétravail chez nous. Sauf vraiment cas exceptionnel, mais c'est plutôt des assistants qui ont entre guillemets qui vont pas sur le terrain, donc eux exceptionnellement ils peuvent aller en télétravail, mais sinon nous déjà l'activité en fait elle s'arrête jamais, donc il n'y a pas de télétravail, et du coup bah ça permet que j'ai beaucoup d'interactions avec les collègues. Et bah sinon, généralement, ça se passe bien. On parle beaucoup. Et voilà. Là, récemment, on a une réunion de comment dire ça une réunion du siège, enfin de notre siège, et il y a notre responsable qui a passé une note sur trois objectifs ou trois directions que prend la SNCF entre guillemets. Et dedans il y avait c'était assez intéressant parce que dedans il y en avait un, c'était l'ouverture. Et dedans on parlait bah du coup du fait que en fait on au niveau du recrutement on recrutait enfin des talents sans se soucier de leur opinion, de leur orientation sexuelle, de leur religion, etc. Mais que dedans c'était bien mentionné que voilà au travail il doit pas avoir de prosélytisme, de choses comme ça, que bah c'est bien sûr c'est des choses personnelles, mais que ça a pas lieu d'être sur le travail, etc. Enfin du coup c'était assez intéressant de parler de ça. Après bon, on n'a pas ouvert de débat là-dessus parce que le chef il a direct mis les choses au point et voilà, mais c'était intéressant, on en a parlé là. Et Et en fait, juste, enfin, dans mon secteur, en fait, il y a beaucoup de, y a une grosse communauté musulmane quand même. Et non, du coup, enfin, ça permet des échanges avec mes collègues. Du coup, ça nous arrive de parler un peu de, pas forcément de rentrer dedans, mais tu sais, quand il y a des fêtes, des choses comme ça, bah, ça ouvre la conversation.
Écoute, enfin, voilà. Coming out.
Comment coming out. Bah non, ils savent que, en tout cas, mes collègues, notamment le, en fait, il y a un collègue avec qui on travaille vraiment ensemble. Et lui, non, il sait que je vais à l'église, il sait que je suis chrétien, etc. Voilà. Après les autres, pas forcément, parce que les autres, on se croise vraiment que pour le boulot. Et c'est rare qu'on déjeune ensemble, c'est rare qu'on ait des moments hors contexte, pas hors travail, on va dire. Du coup, on n'a pas ces échanges qui se font comme ça. Voilà.
Merci Stéphane. Est-ce que Laï, tu nous as rejoint, tu nous entends?
Oui. Vous me voyez?
Ouais, on voit que tu es à l'église dehors.
Voilà.
On fait un tour un peu d'écran sur bah, comment s'est passé les derniers au travail. Voilà.
On a repris en septembre en 2 jours sur site minim obligatoire. Le reste, on peut faire jusqu'à 3 jours de télétravail. Donc, avec nos collègues, enfin, par équipe et par type de travail, ben, on vient tel jour. Donc, je peux retrouver mes collègues, quoi. Mais ça me manque quand même. Enfin, même si je viens 2 jours sur site, je retrouve pas mes marques comme avant, quoi. Parce que, enfin, à midi, ben, je préfère rentrer à la maison parce que à la cantine, on est à une personne par table et on est d'une table à l'autre et c'est éloigné d'un mètre. Je vois pas l'intérêt d'aller manger à la cantine pour être séparée de mes collègues, quoi. Mais je rentre manger à la maison quand je suis toute prête. Voilà, donc ça me permet de voir mes collègues, d'avoir quelques discussions quand on vient dans notre bureau, parce qu'on est deux dans le bureau. Donc ça permet de recréer les liens sociaux. Et donc, ça fait du bien, mais ça... C'est pas complet, quoi. Donc plus tard, si ça, l'épidémie est moins importante, je pense que je vais retourner à 100% sur site pour avoir plus de possibilités de revoir mes collègues. Parce que avec le Covid, bah, tout le monde est encouragé à faire du télétravail, même ceux qui ne faisaient pas avant. Donc il y a beaucoup de gens qui demandent 50% de télétravail. Moi, je n'ai pas envie de faire ça.
Et du coup, si tu as envie, tu peux revenir 5 jours sur site ou pas, si tu as envie?
Ben, je crois que c'est possible, ouais. Mais après, c'est l'envie, quoi. Est-ce que,
ouais.
Parce que il y a pas beaucoup de monde aussi sur site. Bon, on verra.
Tu me partageais en premier que c'était compliqué de témoigner en télétravail parce que forcément, il n'y a plus les pauses café, les repas, tout ça. Donc, c'est vrai que.
Ouais, c'est ça, ouais. Et on ne va pas appeler quelqu'un par visio pour discuter, quoi.
C'est ça. Le temps, c'est le temps. C'est de l'argent.
Ouais.
Ok.
Merci. Moins naturel.
Yes. Moi, depuis juillet, ça a bien repris de manière assez intense dans mon travail. Donc, je ne chôme pas. Sachant que fin août, c'était un peu plus tranquille. Donc, ça, c'est cool. Merci Seigneur. Et puis, je n'étais pas parti en vacances. Donc, ça m'a fait du bien. Et ça se passe bien. Des bonnes interactions avec les collègues. Pas de grandes avancées si ce n'est j'ai une collègue qui est libanaise, du coup on a pu discuter et prier ensemble par rapport à ce qui s'est passé là-bas, donc ça c'est plutôt top. Et puis ouais, j'ai quelques collègues à qui voilà, on peut parler parfois de la foi, mais plus en mode one-one quand on mange ou des trucs comme ça que devant tout le monde, quoi, tout ça. Mais j'essaie d'être vraiment un témoignage par le savoir-être. Il insiste beaucoup dans la boîte, le savoir-faire, le savoir-être. Et voilà, j'espère que je suis un bon témoignage auprès des collègues. J'essaie de mettre une bonne ambiance et tout ça. Donc, on a refait un foot, par exemple. J'ai fait un five vendredi de la semaine dernière. Donc, voilà, donc c'est top de pouvoir jouer avec les directeurs généraux de la boîte. c'est vraiment top l'ambiance, quoi. Voilà. On va continuer avec l'article, du coup. Hop, je vais vous partager. Vous avez vu que quand on est 6, le partage dure moins longtemps, par état de fait. Hop. Alors, tac. Est-ce que c'est assez gros ou vous voulez que je zoome encore plus? C'est bon? Ouais, ok. Top.
Ouais.
Alors, est-ce que Francis, tu peux lire Vanité jusque-là, s'il te plaît?
Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Que restera-t-il à l'homme de tout son labeur pour lequel il s'est donné tant de peine? Ce constat si amer est largement partagé par les personnes au travail. Tant de nos activités semblent vaines, inutiles, des rapports qui ne sont jamais lus, des projets qui n'aboutissent pas, des activités qui ne font plus de sens. Alors pourquoi se donner toute cette peine? Et pourtant, il n'en était pas ainsi dans le plan originel de Dieu. Nous avons vu dans le premier article que Dieu a institué le travail comme une source d'épanouissement pour l'homme, mais là n'est pas toute l'histoire. Dieu a mis en place le travail pas uniquement pour le plaisir de l'homme, mais aussi pour accomplir un objectif précis. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Il répond à un mandat explicite qui fait des êtres humains des co-gérants de sa création. C'est ce que nous avons développé dans cet article.
Esther, est-ce que tu arrives à lire ou est-ce que tu préfères quelqu'un d'autre lise? Parce que je vois que tu es un peu derrière.
Non, je veux bien un petit zoom encore, un petit peu plus.
Hop.
Sur le point 1, c'est ça?
Ouais, le point 1. Et puis après, je dis d'abord déjà le 2, ce sera Alain. J'ai envie de dire Justine à chaque fois, c'est déroutant le nom. Alain, tu dis tout le 2 et on va dire Alain, tu lis jusqu'ici. Juliette, tu lis à partir de comment poursuivre. Et tac, 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 tout ça, ce sera Stéphane. Et là, il ira à la conclusion. Ok? C'est clair, clairement? Ok, nickel. Comme ça, il n'y aura pas de coupure. C'est parti.
Notre mandat nous implique dans la création de Dieu. L'éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Genèse 2, 19 à 20. Au moment où Dieu introduit l'homme et la femme sur terre, le jardin était et fonctionnel. Le ciel, la terre, la mer, les étoiles et le soleil, les plantes, les animaux. Tout fonctionne et est admirablement réglé. Mais la création originelle n'a pas pour vocation à rester statique. Elle est faite pour l'homme et dès le départ, Dieu l'implique. En lui confiant la lourde tâche de nommer les choses, il fait de lui un éthologue, un botaniste, un géologue. Quel formidable terrain de jeu! Il y a tant à découvrir, à trier et à classer. Ce travail de nommage et de classification a donné lieu aux travaux scientifiques les plus structurants pour comprendre le fonctionnement de notre univers. Et il est encore loin d'être terminé. On estime aujourd'hui que sur les centaines de milliers d'insectes existant sur la planète, seule une toute petite fraction a été inventoriée. L'homme du XXIe siècle est toujours en train de nommer les différentes espèces de la création.
Alors, notre mandat est de poursuivre l'œuvre créationnelle de Dieu. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les plaça dans le jardin et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Genèse 1, 28. Éden, un chef-d'œuvre en évolution. Le jardin était parfait mais pas statique ni immobile. L'homme avait pour mandat de le faire évoluer, de le maîtriser au fur et à mesure du développement de l'espèce humaine et de ses besoins de nourriture, de protection, de déplacement. Dieu a remis sa création entre les mains de l'espèce humaine et lui a donné la tâche de la gérer. Un gestionnaire est quelqu'un qui manage les affaires de son propriétaire et qui, en le faisant, en tire lui-même son moyen de subsistance. Ainsi, si mon travail est une façon de poursuivre le travail créationnel de Dieu, la question pour nous est de qui mon travail prend-il soin? En quoi poursuit-il le travail créationnel de Dieu? Le jardin originel mis à disposition de l'homme est comme une mise de fond de départ que Dieu s'attend à voir fructifier par le travail de l'homme. La parabole des talents rapportée par Jésus donne un écho intéressant. Matthieu 25, 14 à 30. En ce sens qu'elle réprimande durement celui qui enferme son talent et ne le fait pas fructifier.
Comment poursuivre ce travail? Et la seconde question est, veut-il que nous le poursuivons? Vers quoi souhaite-t-il voir sa création évoluer? Le jardin originel n'est pas la fin de l'histoire. Celle-ci sera accomplie lorsque la nouvelle Jérusalem fera son apparition et celle-ci, une ville, sera bien différente de la création de départ. L'œuvre créationnelle de Dieu est donc toujours en cours et Dieu, par ce mandat, nous invite à y prendre part. Bien sûr, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas comme Dieu capables de créer ex nihilo, mais comme Dieu, nous sommes appelés à innover, à prendre des initiatives, à mener à l'existence des choses qui n'existent pas encore. Ainsi, toutes les sciences et activités humaines qui nous permettent de connaître notre univers, de développer de nouvelles ressources, de maîtriser les éléments, de lutter contre les maladies, font partie intégrante du plan de Dieu, car elles contribuent à remplir ce mandat de préservation et de développement. Le travail est donc bon en lui-même, de façon intrinsèque, car il est totalement intégré au projet initial de Dieu pour sa création. Quel réconfort de savoir que toute notre activité humaine, quelle qu'elle soit, participe à un mandat aussi vaste et que Dieu l'agrée.
Les buts que Dieu poursuit à travers notre travail. Une lecture attentive du récit originel de la création montre que selon Dieu, tout travail poursuit l'un ou l'autre de ces quatre objectifs. 1. La production des biens et des ressources. Au début, la terre était informe et vide. Il n'y avait que les ténèbres au-dessus de l'abîme. Genèse 1, verset 2. Mais quelques jours plus tard, la terre est remplie de toute espèce, de plantes et d'animaux marins et terrestres. Cela concerne donc toutes les activités liées à la production manufacturière, agricole, mais aussi à la mise en place de tout type de services physiques ou intellectuels. De l'ordre. Dieu organise les espaces, la terre, le ciel et la mer, et le temps. Le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider aux nuits. Toutes les activités professionnelles liées à l'organisation de la société et son contrôle sont comme les services administratifs, la justice, la police, etc. entrent dans cet objectif. De la beauté et de la joie. Il est intéressant de noter que la création se passe dans une ambiance jubilatoire. À chaque étape, Dieu s'arrête et constate que cela est bon. Ces deux derniers objectifs liés à notre activité professionnelle sont importants aussi. Le travail pour Dieu n'a pas comme seule vocation de produire des biens matériels et de l'ordre, mais aussi de la beauté et de la joie. Tous les métiers artistiques et de divertissement sont aussi importants pour Dieu, et il les valorise. L'homme est un être sensible, doté d'une âme, qui a besoin de beauté et de joie pour vivre de façon harmonieuse. C'est aussi de la beauté et de la joie que notre âme peut rencontrer Dieu. Notre Dieu est foisonnant dans tout ce qu'il crée. La diversité et la complexité ne lui font pas peur, et il donne à chaque dimension de notre travail une place de choix, en synergie avec les autres.
C'est à Laïd de lire la conclusion.
En tant qu'être humain, nous ne sommes souvent pas capables d'apporter toutes ces dimensions en même temps à notre travail, mais toutes ces dimensions sont également importantes aux yeux de Dieu. La conséquence en est que toutes nos activités humaines, qu'elles soient artisanales, scientifiques, industrielles, artistiques, sont toutes aussi nobles aux yeux de Dieu. Et que, contrairement à ce que pouvait penser Aristote, le travail n'est pas juste un pis-aller à accepter pour nous nourrir ou à déprécier, car il n'est pas spirituel. Le monde matériel compte aussi pour notre Dieu. Aucun travail n'est écrasant ou à déprécier au regard des autres. Tout travail prouve que la création est bonne. Tout travail fait sens et a une utilité sociale. Aucun travail n'est secondaire et nous pouvons en être fiers.
Merci pour la lecture. Alors, ceux qui l'ont lu avant, je pense que du coup, ça vous a aidé parce que c'est pas forcément facile, je trouve, de se concentrer sur tout. Il y a deux mots qui peut-être vous ont attiré l'attention. Là, ce que vient de dire Laï, il y a pialer. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une solution faute de mieux. En gros, on fait ça, on va faire mieux.
Donc, pialer, quoi.
Voilà, il faut y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Faute de mieux, c'est ça l'expression. Il y en a peut-être qu'il y en a qui ont dit éthologue, c'est quoi ça? C'est pas ethnologue plutôt. Alors, c'est l'éthologue, c'est un spécialiste d'éthologie. Vous n'êtes pas beaucoup. L'éthologie, c'est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, incluant l'humain dans leur milieu naturel, etc., etc. C'est l'étude du comportement des êtres vivants, y compris l'homme. Donc, vous pouvez frimer en soirée si vous voulez avec ces deux nouveaux mots. Moi, je ne connaissais pas. Hop. Alors, ce que je propose. Ce que je vous propose, c'est de, avant de se mettre sur les questions, de commencer à regarder chaque partie du texte. Je pense que des fois, ça allait un peu vite. On n'avait pas forcément le temps. Et de partager dessus. Alors, on a l'impression que le travail, peut-être des fois, il sert à rien, dans le sens où vanité des vanitaires, vous connaissez le passage de l'Ecclésiaste. Et en fait, on se rend compte que le travail fait partie du plan de Dieu. La dernière fois, on a vu que le travail était fait pour nous bénir. Je vous rappelle que le travail a été créé avant la chute. Donc, ça veut dire que le travail était quelque chose de bon. Après, certes, il y a eu la chute. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines fois. Aujourd'hui, là, on se concentre vraiment sur déjà le fait que le travail, c'est quelque chose de bon que Dieu voulait pour nous. Et en même temps que ce travail de création de Dieu, Dieu veut nous associer à ce travail de création. Donc, il nous demande d'être des co-gérants de sa création. Et c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure Genèse 1 et Genèse 2. Notre mandat nous implique dans la création de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous ont parlé particulièrement, qui vous ont vraiment parlé?
Moi, pour ma part, c'était qu'on poursuivait l'œuvre créationnelle. Moi, dans ma tête, c'était un peu la création, c'est terminé, Dieu a fait tout ce qu'il avait fait à faire. Et puis voilà, la création, ça a eu lieu en 3 jours. Et puis nous, on n'intervenait pas. Et finalement, en quelque sorte, en continuant à découvrir des choses, à mettre des noms dessus, on continue l'œuvre créationnelle. Donc ça, c'est pas une idée que j'avais en tête, mais du coup c'est cool de pouvoir participer.
D'autres personnes qui veulent dire quelque chose sur ce premier point? N'oubliez pas d'activer votre micro, sinon vous parlerez dans le vide. Alors, juste, je rappelle, en fait, Francis, je pense que tu as plus parlé sur le deuxième point, mais c'est bien aussi, qui est de posséder l'occupationnel de Dieu. C'est vrai que ce premier point, c'était plus dans le sens que Dieu a fait la création, mais il a donné un rôle à l'homme dans cette création, au moment de Genèse. Et que quelque part, notre métier que nous avons, c'est parce que Dieu nous implique dans cette création, de manière générale. Cette création, voilà, on est toujours dans. Il y a 6 jours qui sont passés hein, aux yeux de Dieu, mais un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour et on est dans ce 7e jour qui, bah, on n'est pas encore à la fin. Et après, c'est vraiment cette idée que cette création, bah, elle continue à vivre et que quelque part, effectivement, le deuxième point, c'est ce qu'a abordé Francis, c'est on poursuit l'œuvre créationnelle de Dieu. Et est-ce que vous avez des remarques sur ce deuxième point? Vous pouvez relire doucement et puis tranquillement et puis partager.
En fait, j'avais une remarque, mais sur le premier point, du coup. Mais non, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, il y a Dieu qui du coup, crée plusieurs choses. Du coup, la terre, les animaux, les hommes, etc. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il crée tout ça, tout a une fonction. Mais au final, c'est l'homme, entre guillemets, qui a une fonction qui est encore plus importante parce que il a la fonction de gérer tout ça, en fait. Donc, tu vois, il aurait pu dire, les oiseaux vont gérer, mais non, c'est les hommes qui gèrent, en fait. Donc, c'est juste, voilà. Je voulais juste.
C'est la responsabilité de l'homme.
Oui. Ouais. C'est ça. Voilà.
Du coup, ça rejoint un peu des discussions aujourd'hui, hein, sociétales sur le changement climatique, comment l'homme a impacté la planète. On est en plein dedans, en fait. Hein. On est dans une société qui veut de plus en plus consommer, qui du coup a besoin de beaucoup de ressources naturelles. Je pense que changer de portable tous les 2 ans, c'est ça qui va nous rendre plus heureux. Du coup, il nous faut prendre des métaux rares, des choses comme ça. Et la Chine est un des seuls pays à avoir accepté de produire ces métaux rares et du coup leurs rivières, leurs fleuves sont pollués du coup. Enfin, vous voyez, il y a tout ça en fait, c'est un engrenage et on est quand même passé pas mal à côté du plan de Dieu par rapport à ça et on n'a pas vraiment pris soin de la création. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'on a un mouvement contestataire avec, pas les gilets jaunes, mais les. Voilà, par rapport à ces derniers mois, il y a aussi ce mouvement avec tous ces jeunes qui ont manifesté dans la rue en disant, on veut une meilleure planète pour nous, pour nos enfants, etc. Et il y a une prise de conscience. Et ce qui est intéressant, c'est pas forcément des chrétiens. Je pense qu'il y en a, mais c'est pas forcément que des chrétiens. Et comme quoi, Dieu a mis cette morale finalement dans notre cœur pour dire, attendez, il y a un truc qui tourne pas rond. Et vous voyez, c'est un peu le reflet de ce que voulait Dieu pour la planète, c'est que l'homme prenne soin de cette planète.
Moi, je voulais ajouter quelque chose aussi par rapport au premier point.
Vas-y.
Le fait que Dieu, en fait, implique l'homme dans la création, ça montre aussi l'importance qu'on a à ses yeux. Enfin, il n'a pas donné, en fait, cette possibilité à n'importe qui, mais à l'homme.
Oui.
Ça montre qu'on est important à ses yeux et qu'il veut qu'on participe justement à cette œuvre. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu.
Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ont partagé sur le premier point avant que je descende? C'est good? Ok, je descends. Donc, deuxième point qui est de poursuivre l'œuvre créationnelle de Dieu. Donc, le jardin, il n'était pas statique ni immobile. L'homme avait pour mandat de la part de Dieu de développer, de maîtriser, de protéger, de prendre soin de ce jardin. Donc, quelque part, nous, de notre planète et comment est-ce que nous y contribuons. Et du coup, la question qui nous pose, par exemple, c'est de quoi et de qui mon travail prend-il soin? En quoi poursuit-il le travail créationnel de Dieu? Et comment est-ce que comment est-ce que nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés? Pas que dans le sens de l'Église, hein, mais des dons aussi que Dieu nous a donnés pour faire nos métiers, par exemple. Et la deuxième question, c'est comment veut-il que nous le poursuivions? Voilà, le jardin d'Éden, c'est pas la fin de l'histoire, et du coup, on sait que à la fin du septième jour, bah, Jésus va revenir, hein, et qu'il y aura cette nouvelle Jérusalem dont on parle dans l'Apocalypse. Et mais en attendant, voilà, il y a ce travail de création qui est toujours en cours, et Dieu nous invite à y prendre part. Et du coup, bah, toutes les sciences, les activités humaines qui permettent de connaître notre univers, de développer des ressources, ça fait partie du plan de Dieu, parce que ça nous aide à remplir ce mandat de préservation du développement. Et bon, on parle pas de la chute, on parle pas encore du péché, etc., hein, aujourd'hui, mais c'est vraiment ce que Dieu a veut donner comme but pour l'homme, quoi. Et le travail, du coup, est bon en lui-même. Donc ça, c'était créé, le travail a été créé avant la chute, et il était totalement intégré au plan initial de Dieu pour sa création. Donc et voilà, nous encourage en disant, bah, c'est un réconfort de savoir que quel que soit notre métier, bah, ça participe au mandat de continuité de création que Dieu a donné pour l'homme. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir par rapport à cette notion de poursuivre l'œuvre créationnelle de Dieu? N'hésitez pas.
Moi, je trouve que c'est assez clair. Et quelque part, en fait, c'est un peu les premières choses que Dieu demande à l'homme, en fait, de faire. Et du coup, dès le départ, on voit que peu importe le travail qu'on fait, ou même si on ne travaille pas, dès le départ, en fait, on a cette responsabilité. Et en fait, chacun, on doit pas faire n'importe quoi avec la création, je pense. Il y a une part de respecter aussi ce que Dieu a créé, et de se dire, bah oui, Dieu a créé tout ça, et il l'a créé bon, et il l'a créé aussi pour nous, parce que il dit que c'est dans tout ça qu'on va trouver de quoi se nourrir, de quoi vivre, de quoi vivre. Et du coup, bah c'est super. Il y a vraiment une grosse responsabilité de se dire, bah, si on fait n'importe quoi, quelque part on crache sur ce que Dieu nous donne, et en plus on détériore, on abîme tout ce que Dieu a fait, et du coup c'est vraiment très très important d'en prendre soin, et de se rendre compte aussi que faut pas faire n'importe quoi, en tout cas.
Oui. Alors, je rajoute juste que si vous voulez creuser plus loin tous ces thèmes-là, donc il y a les articles du blog, mais à droite, là, vous avez des bouquins. Alors, notamment ce bouquin que j'ai lu, qui est génial, que je vous conseille, c'est Dieu dans mon travail, de Tim Keller, qui est en français, qui me donne vraiment du sens. Et après, les autres, je les connais un peu moins. Et puis après, vous avez un super site qui s'appelle Theology of Work, où quand je devais partir à Mani il y a un an, bah, j'avais des devoirs à faire, et c'était de ces articles-là, notamment. Donc, alors, tout est en anglais, si vous maîtrisez l'anglais. Et sinon, ce bouquin-là, qui est vraiment bien, que je vous conseille. Stéphane, tu disais juste, je reprends juste la partie où tu disais, tout le monde travaille ou ceux qui ne travaillent pas. C'est vrai qu'on a une notion de travailler dans le sens activité professionnelle, mais ce que je disais dans les premières séances, c'est que une maman au foyer, c'est un travail. Même si voilà, c'est pas rémunéré, mais il se trouve que si jamais c'était rémunéré, peut-être quand même qu'elle gagnerait plus que moi. Si on compte tout ce qu'elle fait. Parce que c'est H24, parce que voilà. Mais voilà, n'oubliez pas que même ceux qui ne travaillent pas ou qui sont étudiants, quelque part, ils travaillent aussi, quoi. Voilà. D'autres personnes veulent partager sur cette deuxième partie? Non, c'est clair. Okay. Je continue sur la troisième partie. Alors, je pense qu'il y a un petit bug. Il y avait trois objectifs. Il y a quatre objectifs, mais je pense qu'il y en a trois. C'est un peu pour dire quels sont un peu les buts que Dieu poursuit à travers notre travail, et il poursuit comme but le fait de produire des biens et des ressources. Donc c'est les métiers de la création, de l'agricole, etc. Ou les services physiques, les services intellectuels. Là, on est peut-être pas mal à être concernés. Il y a aussi tous les métiers d'ordre, donc la justice, la police, la sécurité, par exemple. Voilà. Et la beauté et la joie, dans le sens où tout ce qui est créatif, dans le sens des personnes qui aiment créer, être créative, et voilà. Et ça aussi, bah, ça reflète Dieu, parce que Dieu lui-même est quelqu'un de très créatif. On peut créer et on peut être amené à être créatif. Voilà. Et ça, c'est valorisé par Dieu. Donc en général, normalement, on arrive à classer nos métiers dans une de ces trois catégories. Et est-ce que voilà, ça, c'est quelque chose qui vous a parlé quand vous avez lu ça, ou est-ce que bon, de toute façon, vous saviez déjà? Peut-être Alain, si tu veux répondre.
Non, moi, j'avais pas fait le lien avec les catégories. Hein. Mais après avoir lu, ouais, ça me paraît logique.
D'accord. Okay. Est-ce que ça t'a parlé de dire que ton travail finalement fait partie du mandat créationnel de Dieu?
Ouais.
Et pas juste bon, je fais l'informatique et voilà quoi. Ouais. Et laïc, il y a quelque chose qui t'a parlé dans cet article-là, dans cette partie-là?
En réfléchissant, donc là. Il a cité trois choses. Oui. Donc, la production des ressources, de l'ordre et la beauté de la joie. Je pense à nos besoins essentiels, c'est-à-dire manger, se revêtir, donc ça, c'est des ressources. Pour nous loger, est-ce que ça fait partie des ressources? Il y a un domaine de construction, quoi. Mm. Donc ressortir l'habilité des personnes qui savent faire qui sont bons dans la construction ou qui sont bons dans le métier de vêtements, tout ça, enfin, au fait, ça demande des dons des gens, quoi. De différents dons. Et, donc je pense peut-être qu'il y a autre chose qui font partie du travail, qui ne sont pas cités dans ces trois points-là.
Mmh. En fait, il y a notamment une quatrième catégorie qui serait la réponse aux besoins, quoi, c'est ça?
Peut-être. Ou... Enfin, je ne sais pas si ça fait partie d'une catégorie, divertissement ou dans le développement physique, quoi, des gens. Parce qu'on n'a pas besoin uniquement de... Enfin, comme les coachs sportifs qui ça travaille aussi, c'est un autre domaine encore.
D'accord, parce que genre, service physique, je pense qu'il y a le sens où le coach sportif le mettrait plutôt là. Et, ouais. Et après, contribuer la construction, etc. Bah, je pense que ça fait partie de production de biens et ressources de manière plus générale. Tu vois. Mais bon,
D'accord.
Après, voilà, c'est pas une règle. C'est juste l'auteur qui est proposé de considérer trois catégories principales. C'est comme dans toute catégorie. Ouais. Voilà, des petits trucs. Mais je pense que l'idée générale est assez bonne. Effectivement, peut-être qu'il y en a un quatrième qu'on a oublié de mettre. Je ne sais pas, il faut que je vérifie. D'autres personnes veulent rajouter quelque chose sur cette troisième partie qui vous a parlé?
Moi, je pense que ça permet de se poser la question en quoi mon métier participe à la gestion de la création. Ouais, je pense que des fois, on est tellement éloigné, même on ne sait plus trop à quoi ça sert ce qu'on fait. Ça rejoint un peu au début, on fait des rapports, on fait des trucs que personne ne lit ou qu'il n'y a pas forcément des impacts, mais c'est ce que tu produis au quotidien.
Ouais.
Et où ça sert, où tu passes une journée à produire un truc qui est utilisé pendant une demi-heure et puis après c'est poubelle. De toute façon, les données, elles sont plus valables le mois prochain, elles ne serviront plus à rien. Mais ça remet dans le contexte en fait de se poser la question soi-même, qu'est-ce que moi, mon métier au quotidien, ça apporte à la société, en quoi ça aide à organiser la création de Dieu. Ouais, je pense que cette question-là, elle te permet de voir que on participe, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup la conclusion qui dire que notre Dieu est foisonnant dans tout ce qu'il crée. En gros, il couvre tellement de multitudes de choses. Et la diversité et la complexité ne lui font pas peur. C'est vrai qu'on est très divers. On a tous des dons différents, d'ailleurs, quand on regarde que ce soit à l'Église ou même nos métiers qui sont très, très différents les uns des autres. Et il donne à chaque dimension de notre travail une place de choix en synergie avec les autres. C'est vraiment comme l'idée qu'on fait partie d'un seul et même corps, le corps de Christ, mais également le membre d'un seul et même corps dans le sens où, de l'humanité, où chacun contribue là où il est. Voilà. Et des fois, j'ai l'impression que des non-chrétiens ont plus compris, se posent plus ce genre de questions, parfois, comme j'en ai connu pas mal qui ont tout remis en cause et qui disent « Tiens, non, j'ai envie de faire un métier qui va vraiment aider les autres, etc. » Et les gens, les gays, ne sont pas forcément chrétiens, mais ils ont, je pense, au fond d'eux, ce sentiment qu'ils doivent apporter quelque chose. Et je me dis, à plus forte raison, on devrait peut-être se poser aussi ce genre de questions, sans forcément démissionner, hein, mais voilà, se poser ce genre de questions. Et je crois que Juliette, ça rejoint un peu peut-être ce que toi, tu t'es posé quand même. C'est peut-être ça ta démarche aussi, j'imagine.
Ouais, en effet, c'est vrai que moi, du coup, comme j'ai quitté, j'ai mis un an quand même à bien réfléchir pour savoir si je quittais un peu mon milieu professionnel, mon ex-milieu professionnel, parce que en fait, au bout d'un moment, en fait, j'y étais, mais je me suis dit, ouais, peut-être que Dieu m'a placée là pour que je sois un témoignage auprès de mes collègues, tu vois, enfin, parce que le milieu dans lequel je travaillais n'était pas forcément, n'était plus adéquate par rapport à ma façon de vivre, ma vision des choses. Alors qu'auparavant, c'est quelque chose, je le dis honnêtement, que je kiffais, quoi. Enfin, voilà, j'étais très un peu matérialiste et tout. Et que vraiment, Dieu a travaillé mon cœur, a changé mon cœur, je pense. Et a fait en sorte que... Après, bien évidemment, il me reste encore... j'ai mes petites envies et tout, hein. Enfin bref, mais ça c'est aparté, mais dans le sens où au bout d'un moment je me suis dit mais je peux plus rester dans ce milieu de travail avec des gens enfin qui étaient pas forcément faciles, qui étaient genre obstinés qui adoraient ça, enfin qui adoraient le matériel, enfin le luxe et tout, tu vois, enfin j'arrivais plus en fait, j'essayais mais j'arrivais plus. Et je me suis dit que ça n'avait aucun sens et que j'avais besoin justement de me retourner vers quelque chose j'avais le contact humain dans mon ancien travail, mais c'est pas pareil, c'est un peu superficiel, tu vois. Le contact humain, il était un peu superficiel et j'avais besoin de quelque chose de plus authentique et quelque chose qui me plaisait en même temps. Enfin, je me dis qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me plaisait et qui pourrait, j'aurais d'autres personnes, je vais côtoyer sûrement d'autres types de personnes et que, justement, que le Seigneur puisse m'aider à être une lumière parmi le milieu où je vais travailler, mais surtout pour ce que je vais faire aussi par la suite, en fait. Parce qu'après, je n'ai pas pour but d'ouvrir une boulangerie ou de travailler dans une boulangerie, ça, ce n'est pas du tout mon but, mais plutôt, voilà. Je sais pas, enfin, me rapprocher des gens à travers des ateliers, enfin, je sais pas. Donc, ça à voir. Mais ça, c'est encore très flou parce que pour moi, la première étape, c'est avant tout de me former, de me former avec l'expérience et après, on verra par la suite.
Voilà. Ok, merci pour ton témoignage. Et puis, oui, la conclusion du coup de l'article qui disait que le monde matériel compte aussi pour notre Dieu. Aucun travail n'est dégradant ou à déprécier au regard des autres. Tout travail prouve que la création est bonne. Tout travail fait sens et une utilité sociale. Aucun travail n'est secondaire et ne pouvons en être fiers par rapport au métier que nous exerçons en tant que chrétien. Alors, il y a peut-être une exception de certains métiers, hein, bien sûr, mais voilà. On va dire que là, c'est plus de manière globale. Alors, on va essayer de répondre aux questions, sachant qu'il y a pas mal de questions où je pense qu'on a un peu répondu à travers nos échanges. Première question. À quoi votre travail sert-il ? En quoi participe-t-il au mandat de Dieu pour poursuivre son œuvre de créateur ? Procure-t-il des biens, des ressources, de l'ordre, de la beauté ou de la joie ? Alors, je vous laisse un peu réfléchir et pour l'instant, je vais commencer à répondre comme ça vous donnera un peu un exemple. Et peut-être que voilà, c'est une réflexion qui peut pas se faire juste comme ça en atelier, mais qu'il faudrait peut-être pousser aussi chacun de votre côté. Alors moi, mon travail, c'est d'aider à construire des bâtiments qui respectent l'environnement, qui soient plus durables, que on va pas les rénover d'ici 20 ans parce que voilà, tout a été pensé dans une logique pérenne du bâtiment, également qui respecte l'environnement dans le sens où il aura moins d'impact carbone et il va avoir des énergies qui soient plutôt dites vertes du coup. Et voilà, entre autres. Et du coup, en quoi participe-t-il au mandat de Dieu pour pousser son œuvre de créateur? Je pense que c'est à aider à concevoir des choses qui respectent la planète, du coup. Donc, aider à prendre soin de la planète à travers l'impact qu'on peut réduire dans la construction des bâtiments. Du coup, il procure des ressources intellectuelles pour les architectes, pour les promoteurs immobiliers, pour tout ça. Peut-être aussi un peu de la beauté parce que on essaie de s'inspirer de ce qui se fait dans la nature, d'avoir des choses parfois plus simples, et du coup des fois c'est très joli aussi, et de la joie, je sais pas, est-ce que le bâtiment une fois qu'il est construit, nous notre but c'est que les personnes qui vont travailler dans ce bâtiment, que ce soit des grands groupes ou des petits groupes, que les personnes se sentent bien dans le bâtiment aussi, donc que ça puisse procurer de la joie. Voilà. Donc, on va pas tous y passer, mais est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent partager sur cette question? Faisons un peu l'exercice.
Oui, je veux bien partager. Alors, en quoi mon travail sert-il? Alors, je suis développeur, donc je travaille sur le site qui permet aux clients de faire des commandes de nourriture. Du coup, en quoi participe-t-il au mandat? Ça permet au client de. Donc, le client, c'est le professionnel, donc de faire vivre son resto, sa boutique. Oui, ça procure bien de ressources. Oui, ça leur permet de faire vivre son établissement, son restaurant, de livrer ses clients.
Ok. Merci, Alain. Une personne veut partager sur cette question?
Moi, pour ma part, je suis gestionnaire de risques. Et en fait, c'est sur les risques des investissements que fait ma boîte pour le compte du client. Et le client, c'est des régimes de retraite, des plans d'épargne des sociétés que les sociétés ont mis en place pour leurs employés, pour améliorer leur retraite. Du coup, l'argent qui est récolté par ces sociétés, elles sont confiées à la mienne pour que l'argent soit investi pour avoir du rendement en vue d'améliorer en fait les pensions de retraite des particuliers. Du coup, moi, je vérifie que ces investissements se font dans un environnement de risque contrôlé et qui a été négocié avec le client. En fait, le client dit je veux tel niveau de risque, et nous, mon équipe veille à ce que les personnes en charge d'investir cet argent dans la société le fassent dans ce contexte-là, dans ce cadre-là. Donc, en quoi ça participe? Je dirais que ça participe à améliorer la vie des gens, en fait, dans un futur assez lointain, retraite. Plus ou moins lointain, ça dépend à quel âge on a. Mais... Oui. Après, les investissements, maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours tout ce qui est... environnement, sociétal, gouvernemental, et en fait il y a des labels en fait qui ont émergé depuis 10 ans, et les clients sont particuliers, mais même les sociétés sont très friands que leur argent soit investi dans des sociétés qui respectent ces règles-là ou qui s'engagent à changer leur mode de production, leur mode d'investissement. Vers quelque chose de plus vert, quelque chose de plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des personnes. Donc voilà, donc en fait, les sociétés qui n'ont pas cette vision-là sont peu à peu mis de côté. Et en fait, toutes les sociétés maintenant, qu'ils le croient ou qu'ils le croient pas, ils n'ont pas le choix en fait. Ils doivent migrer en fait vers ce modèle-là, de réduire leur empreinte carbone dans tout ce qu'ils font. Enfin, ça peut être plein de trucs. Et finalement, si on ne rentre pas dans le moule de nos jours, on peut vite perdre en termes de compétitivité, en termes de même d'attractivité, on peut perdre tout ça en peu de temps en fait, parce que c'est ce que tout le monde regarde, et si on n'est pas dans le monde, ben, ça ne marche pas.
D'accord, ça marche. Merci. Deuxième question. En parallèle, y a-t-il quelque chose d'indigne, de non conforme aux objectifs initiaux de Dieu dans votre activité professionnelle? Et dans ce cas-là, comment réagir face à ces aspects-là? Pensez-vous pouvoir le réformer? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas trop bibliques, trop conformes avec la volonté de Dieu, qui vont être demandées dans le cadre de votre activité professionnelle? Ça peut être mentir, hein. Ça, je pense que c'est un des trucs les plus simples à trouver comme exemple. Ça peut être toute chose. Mentir sur la qualité d'un produit pour le vendre. Enfin, masquer quelque chose. Enfin, je sais pas. S'il y a des choses comme ça qui vous ont déjà été demandées.
C'est pas forcément mentir, mais peut-être embellir les...
Enjoliver.
Ou enjoliver ou minimiser, tu vois. En fait, non, pas vraiment, mais tu dis pas toute la vérité.
Dans ton travail actuel ou dans ton travail d'avant?
Le travail actuel.
Ouais, dans le travail actuel ou dans le travail d'avant. Parce que de toute façon, toutes les personnes qui gèrent, en fait, on est pêcheurs, donc forcément, on a tendance à ne pas vouloir se mettre dans des positions difficiles. Donc, tu dis pas toute la vérité, mais en même temps, tu mens pas.
Tu dis semi-vérité.
Voilà, c'est ça.
Ok. Et comment est-ce que tu penses qu'il faut réagir par rapport à ça? Et comment est-ce que là où tu es, comment est-ce que tu pourrais changer ça?
Ben nous, par exemple, par rapport à quand tu as des parrains qui appellent et qui sont vraiment pas contents, on essaie de leur répondre avec amour. On leur dit la vérité. On dit oui, par exemple, ils écrivent ils appellent pour se plaindre par rapport à, je sais pas, un courrier qu'ils n'ont pas reçu d'un filleul ou quoi. On fait des recherches. Et effectivement, par exemple, le filleul n'a pas écrit depuis longtemps. Donc, on leur dit la vérité, mais on essaie toujours de répondre avec amour et de leur dire que on fait tout notre possible pour faire remonter l'information. Je pense que c'est la manière de traiter les choses.
C'est pas faux. Enfin, pour moi, tout ça, c'est vrai. C'est pas comme si t'as pas enjolivé ou quoi que ce soit.
Oui, non, mais après, ça, c'est... Oui. Ben oui, mais des fois, tu dis pas forcément oui parce que ça fait plusieurs fois qu'il n'est pas allé au centre d'accueil, je sais pas. Enfin, tu donnes pas forcément toutes les informations.
Ah.
Tu donnes une partie, quoi. Je sais pas. Enfin, c'est... Ouais.
En tout cas, ça me choque moins que d'autres cas. Que d'autres cas. Mais ok, merci pour le...
Je pense qu'il y a d'autres exemples plus...
Moi, je pense que les boîtes, elles te diront jamais de mentir ouvertement.
Ouais, c'est
pas implicite. Si tu le fais, enfin, ça va leur tomber dessus. Mais ça peut être très indirect. Oui, t'as calculé des données sur un échantillon. Ouais, les chiffres, ils ressortent pas bien et tout. Tu peux pas
les améliorer, les optimiser.
Prendre un autre échantillon pour que ça marche bien. Ça peut être des trucs comme ça.
C'était déjà arrivé quand tu demandes ça?
Non, mais un collègue, oui. Il me l'a dit là, cette semaine. Il m'a dit, ouais, j'ai calculé des stats sur des données. J'ai pris un échantillon. Bon, les chiffres, ils sont bofs. Il l'a présenté à son manager et il lui a dit, ah ouais, mais ouais, ils sont bofs les chiffres. Tu peux pas refaire tes calculs avec un autre échantillon. pour que ça soit meilleur, parce que bon, c'est moyen.
Il a dit quoi ton...
Bah, il l'a fait, ouais. Il a... Mais après, comme c'est sur un échantillon, c'est vrai que c'est toi et ta chance, quoi. C'est pas sur tout le scope, donc... Tu vois, c'est gris, quoi. Tu sais pas trop.
Ouais.
Parce après, que ton chiffre, il est pas forcément, il prend pas forcément tout en compte. Mais ouais. Un échantillon, c'est un peu biaisé, déjà, quand tu prends un échantillon.
Ce qu'il faudrait voir, c'est quand ça t'arrivera, comment tu réagis. Je te le souhaite pas, mais c'est vrai que quand on observe, c'est vrai qu'on est moins, enfin, on se sent peut-être un peu moins concerné que quand. Ok. Troisième question. Au regard de ces vérités bibliques, vous semble-t-il juste de différencier les activités spi des activités matérielles? Pourquoi? Comment devriez-vous considérer votre travail et le travail des autres? Y a-t-il des activités professionnelles que vous avez jusque-là dépréciées et qui seraient à reconsidérer? Ça rentre un peu dans la logique de dire, bah, il y a les activités spi liées à l'église, les activités autres, et je fais une distinction entre les deux. Est-ce que bah, c'est toujours justifié ou finalement bah, pas tant que ça parce qu'il y a un aspect spi finalement dans tout ce qu'on fait? C'est quoi un peu votre avis sur la question?
Bah, je trouve des fois c'est assez compliqué, enfin complexe, parce que des fois tu. En fait, quand tu es dans le cadre du travail, tu peux pas en fait tu reçois des ordres directs de ton hiérarchie qui te dit je prends le cas du collègue de Francis là, on leur demande ouais de donner des chiffres machin nanana, et si les résultats sont pas bons, ton hiérarchie qui va te dire bah non mais en fait il faut tourner comme ça machin nanana, et quitte à rendre de faux résultats. Mais en fait c'est assez compliqué parce que tu es dans une position où toi en fait ta morale personnelle elle va te dire bah non moi je veux pas mentir, je veux pas tricher, et en même temps ton au niveau professionnel on te dit bah non faut faire comme ça, et en fait c'est bon, j'ai pas de solution hein, mais des fois tu es dans des situations assez compliquées et c'est dur à gérer. Moi, j'ai pas vécu ce genre de situation, mais c'était plutôt dans mon ancien établissement, enfin, à Saint-Lazare, où on devait gérer beaucoup de cas d'accidents du travail. Et en fait, nous, on était en responsabilité de réaliser l'enquête. C'est-à-dire, tiens, il y a un tel qui s'est fait un accident, comment ça s'est produit? Et souvent, le problème auquel on était confronté, c'est que, j'en sais rien, monsieur X, il a un accident. Moi, je suis pas sur les lieux de l'accident, donc j'ai pas vu. Et il a été avec son collègue Y. Et lorsqu'on va faire le recueil des faits, bah t'en as un qui va dire un truc, et t'as l'autre qui va, même si ça s'est pas produit comme ça, il va aller dans son sens pour avantager son collègue, pour que son collègue, je sais pas, son accident soit reconnu. Et en fait, t'as jamais la vérité, parce que ils vont jamais dire ouais je suis tombé parce que j'étais sur mon téléphone, c'est de ma faute, tu vois. Ils vont toujours te dire non, j'ai glissé parce que le sol il était patati. Enfin, en fait t'as jamais la vérité dans ces cas-là, et toi t'es dans une situation bah tu dois te dire bah non, moi je dois en même temps recueillir les faits et faire en gros l'analyse avec ce qu'ils me donnent. Et en fait, au fur et à mesure que tu traites avec eux, tu vois bien que dans leur discours, il y a du faux, il y a des choses qui sont pas vraies, mais
c'est pas cohérent.
C'est pas cohérent, mais après, tu peux pas les confronter et leur dire, parce que toi, t'as pas de preuves, t'as pas de, et entre guillemets, t'es juste là pour recueillir des faits. Et après, l'autre problème, c'est que moi, après, je dois, en fait, toute l'analyse que je fais, je dois le porter au directeur d'établissement, en fait, qui lui va valider, etc. Et le problème, c'est que bah en fait tu lui ramènes une analyse qui est biaisée, parce que déjà d'une part t'as pas les bonnes informations, parce que t'as donné des informations qui étaient pas bonnes, et en fait tu te retrouves dans une situation où tu fais des choses, mais quelque part, c'est pas juste, en fait. parce que c'est pas vrai ou c'est pas, et ça va profiter à la personne qui a déclaré son accident, qui va dire que bah j'ai eu ça, qui va se retrouver en arrêt, même si parce que c'est très, enfin c'est complexe, hein. La personne se retrouve en arrêt, elle est payée à 100%, et en fait finalement un petit écart de la personne, ça l'arrange parce que bah après elle est chez elle et le repos elle est payée, et pourtant enfin ce qui s'est passé c'est pas vraiment la vérité, quoi.
Stéphane, du coup, si je résume, il y a deux cas. En fait, il y a déjà le cas de si jamais toi ça t'arrive, est-ce que bah tu déformerais un peu pour que ça t'arrange. Et deuxième cas où bah, je suis au courant, je vois quand même il y a des trucs qui sont pas très nets. Est-ce que je me tais ou est-ce que bah j'en parle quand même, tu vois. C'est un peu les deux cas. N'empêche, ce que tu viens de dire en fait, c'est que le fait que tu te poses toutes ces questions, c'est que justement la frontière entre les activités spi et les activités on va dire non spi, ça n'existe pas en fait. Je trouve. Enfin, c'est vraiment la preuve. Enfin, le fait qu'on se dise que dans notre travail, on se pose des questions sur comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de situations délicates, ça montre qu'on ne met pas notre conscience de côté au moment où on part au travail. Je fais, ouais, c'est pas grave, je mens, c'est pas grave. Après, hop, je sors, ah, je vais aller évangéliser et tout. Enfin, non, il y a vraiment ce côté où finalement, tout est spirituel dans tout ce que nous faisons en fait. Il y a toujours un aspect spirituel et on peut pécher effectivement dans le cadre du travail, tout comme on peut pécher en dehors du cadre du travail. Et pour répondre à la question, du coup, c'est pas vraiment juste de différencier les activités spi des activités matérielles. Dans notre travail, ben, on a un impact spirituel, et à travers ce que nous allons dire et ce que nous allons faire, ben, on va avoir un impact sur notre témoignage quelque part, quoi. Donc, ça rejoint ça. Merci en tout cas, Stéphane. Dernière question. Ah oui, y a-t-il des activités que vous aviez jusque-là dépréciées qui seraient à reconsidérer? C'est plus dans le sens que voilà, il y a peut-être des métiers où vous dites ouais, bon, ça ne servait pas trop, mais finalement, vous vous rendez compte que c'est. En fait, ces métiers-là sont utiles aussi. Moi, je pense qu'avec la crise du Covid, on s'est rendu compte à quel point c'était précieux d'avoir des caissiers de supermarché. Mais c'est vraiment très bête, hein, mais. Tu sais, genre, moi, j'étais en mode, ah, oh, merci et tout, parce que, bah, ouais, vous, enfin, tu sais, les premières fois qu'on a fait les courses dans le confinement, franchement, c'est courageux de notre part. Fait, bah, ouais, mais de toute façon, c'est mon travail, c'était genre normal, tu vois, pour eux. Et voilà, je pensais à ça. Sur quelle base devrions-nous choisir notre activité professionnelle pour les services qu'elle fait, pour la conservation de ces sujets qu'elle apporte, pour le plaisir qu'elle procure, pour les dons qu'elle nous permet d'utiliser? Ça, c'est un peu le pourquoi vous faites votre travail. Est-ce que voilà, peut-être Laï ou Alain, est-ce que vous avez sur quelle base vous pensez que vous faites votre travail? Est-ce que c'est plutôt par rapport aux questions de service, de statut social, de plaisir, de don que vous avez?
Moi, c'est plus par rapport à mes dons.
Ok. Ton travail te permet de tes compétences, tes dons. Okay. Delaney, je ne sais pas si tu veux répondre à la question.
Moi, c'est plutôt le fait de participer à un projet qui permet de construire une machine qui sera utilisée pour les calculs ou pour autre. Bah, du coup, ça participe au développement global. Enfin, donc ça peut être la météo, pour calculer, pour pouvoir calculer les jours à venir. Donc le fait de pouvoir participer à ça, de pouvoir travailler dans un groupe, ça procure la joie, quoi.
Ouais.
Et, que ce soit utile aussi. Et voilà, donc le travail d'équipe aussi, c'est un plaisir de pouvoir réussir ensemble, de résoudre des problèmes ensemble. Et les dons de chacun, en fait, parce qu'on est tous différents et on voit des choses différemment, et ensemble, on construit bien l'objet qu'on veut, quoi.
Ouais. Ah, je trouve que le travail d'équipe stimulant, en fait. C'est quand on travaille à deux et qu'on souffre ensemble sur un projet, mais qu'à la fin on voit la concrétisation, c'est...
Ah, on se traite ensemble, qu'on cherche mais pourquoi ça marche pas, mais qu'est-ce qui... Ouais. Et puis quand t'es toute seule, t'as n'arrives pas et tu appelles un collègue, est-ce que tu peux m'aider? L'autre, il voit tout de suite, bah, c'est là, quoi. Donc, quand tu es tout seul, ça... tu galères.
C'est ça. Et je pense que c'est, c'est peut-être un principe qu'on peut appliquer aussi dans notre vie spirituelle aussi parfois. C'est, ah, je galère sur un tel point, mais si tu avais parlé de ce truc où tu galères, peut-être que ton frère ou ta sœur pourrait t'apporter un conseil qui serait adéquat par rapport à ta situation. Et voilà, je pensais à ça aussi. Ok, et après application, remerciez Dieu pour le mandat qu'il vous donne à accomplir sur terre par votre travail. Nommez les choses que cela vous permet d'apporter à la société. Demandez-lui de vous en donner la volonté, la force pour le faire du mieux possible sa gloire. À sa gloire. Donc voilà, l'idée c'est de réfléchir un peu. On ne va pas le partager maintenant, mais c'est plus voilà, dans la continuité des jours à venir. De dire, bah, tiens, qu'est-ce que dans mon travail je peux apporter aux gens, à la société, soit à mes collègues, soit à la société de manière plus générale. L'AI a partagé sur les services rendus aux gens, de savoir la météo, c'est quand même assez utile. De savoir que là, la canicule, ça arrive. Bon, bah, moi, je suis préparé, je le savais. Sachant que la veille, il faisait 20 degrés, bon, bah, c'est quand même super utile. Donc voilà, essayez un peu de réfléchir à ça. Et avant qu'on termine, je vais vous demander si, pour la prochaine date, si vous pouvez regarder vos calendriers, parce qu'on arrive à la fin, il est bientôt 11h30.